Donc je me présente, je m'appelle Annie-Claude Seban, je suis vice-présidente de l'association Vélophonie. Peut-être certains d'entre vous nous connaissent, donc on est une association bordelaise qui a pour vocation de valoriser le territoire bordelais en matière de vélo à l'international. Également, notre association a pour but de valoriser la francophonie dans le domaine du vélo, qui est la plupart du temps en langue anglaise. Voilà. Rapidement, quelques remerciements. Tout d'abord auprès de Mola, qui nous prête à nouveau une salle et qui nous donne la possibilité de réaliser une nouvelle conférence sur le thème du vélo, sachant que donc, ça fait un partenariat maintenant qu'on a depuis 5 années. Partenariat grâce auquel on a pu créer une bibliographie francophone du vélo qui est internationale et permanente. Également, donc, on a l'occasion de recevoir des auteurs, comme ce soir Frédéric Errand, sachant qu'on a déjà reçu Michel Dalloni pour son livre « Sans questions sur le vélo ». On a reçu aussi Olivier Rasemont, journaliste du Monde, pour « Le pouvoir de la pédale ». Dernièrement, on avait reçu aussi « Le vélo pour les nuls » de Hélène Giroux. Voilà, donc ce soir, on est ravis de t'accueillir, Frédéric. Voilà, donc. Par contre, je vais vous faire une petite communication avant de commencer la conférence. Vous pourrez la retrouver sur le site internet de Mola en podcast. Voilà, vous pourrez télécharger le MP3 et le mettre sur votre téléphone si vous voulez réécouter ou partager cette conférence, si elle vous a plu. Et également, demain, le territoire bordelais va se voir remettre un prix national, qui est le prix du Guidon d'Or. Donc sachez que si vous voulez venir assister donc, à cette remise... d'un prix concernant donc la qualité des aménagements cyclables de Bordeaux, ce sera à la place de la Victoire à midi. Hein. Voilà. Et puis midi 30 à la Maison du Vélo. Voilà. Donc maintenant, bah, écoutez, on peut passer donc à la conférence. Donc, je vais vous présenter Frédéric Errand, qui est donc enseignant-chercheur à l'Université de Lille 1 et qui est spécialiste d'économie des transports. Il travaille sur le vélo de façon épisodique depuis plus de 20 ans. Voilà, donc Frédéric, tu sais, on était vraiment ravis, en tout cas, quand tu as accepté de venir nous voir, parce qu'on a beaucoup aimé ton livre. Bon, on est tous passionnés de vélo, mais surtout, c'est un livre brillant, écrit par un chercheur, un livre d'histoire, vraiment très, très fouillé, beaucoup de détails, beaucoup d'informations. Voilà, puis on est vraiment ravis que tu viennes nous en parler. Donc, on va, je pense, te harceler de questions. Alors, justement, première question, on a pour tradition de demander à chacun des auteurs qui viennent nous rencontrer, premier souvenir du vélo, souvenir d'enfance peut-être ?
Bon, avant de répondre, je vais peut-être quand même tout de suite remercier Vélophonie et Mola pour cet accueil, en d'excellentes conditions, je découvre. Et puis, dans cette ville que je connais mal, mais enfin, où je suis déjà allé de loin en loin, et j'en ai encore profité tout à l'heure pour faire un bon petit tour de bicyclette. Mon vélo pliant, qui est là, qui est bien pratique, dans Bordeaux. Mon premier souvenir d'enfance, évidemment, c'est le vélo comme jeu. Hein, je crois qu'on est nombreux ici, je pense, à avoir des souvenirs d'utilisation du vélo pour faire un peu n'importe quoi. Enfin, je me souviens d'une descente de chemin creux qui était pas très loin de chez moi. Enfin, on faisait les foufous quoi dans cet arrière-pays pas très loin. Bref, voilà, ça c'est mon meilleur souvenir. Oui, on a même cassé des tas de choses, une pédale un jour. Enfin, oui, on les maltraitait nos vélos. Oui.
D'accord. C'est surprenant. Donc, je voulais te demander aussi, ça fait près de 20 ans qu'on se connaît finalement, hein, j'ai calculé tout à l'heure. Moi, je te connaissais comme économiste des transports et c'est vrai que j'étais très surprise de te voir devenir historien, avoir une approche historique pour parler du vélo. Donc, peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu tout d'un coup ce changement de champ disciplinaire, on peut dire, en tant que chercheur.
Oui. Tout est arrivé avec une demande de chercheurs. En fait, c'est l'antenne locale du CEREMA, qui est un centre d'études de recherche du ministère de l'Environnement sur les transports, l'environnement, l'urbanisme, etc. Et ils ont une antenne à Lille et ils sont venus me chercher en disant « Aide-nous à mieux comprendre le vélo ». Alors, je leur ai écrit une centaine de pages, qui est toujours sur Internet, en accès libre, d'ailleurs. Et puis, vu le succès qu'a rencontré ces pages-là, je me suis dit que, bon sang, mais bien sûr, c'était le moment d'en faire un livre. Parce que je cherchais depuis longtemps L'angle, comment aborder le vélo? Alors, avantage, inconvénient, ça ne m'intéressait pas vraiment de faire ça, parce que ça a déjà été plus ou moins fait par les uns ou les autres. Alors que l'angle historique me semble très pédagogique, vraiment très pédagogique. Mais certes, je ne suis pas du tout historien. Alors quand j'ai lu les travaux des historiens, je me suis aperçu qu'il leur manquait une clé de lecture fondamentale que moi, en tant qu'économiste des transports, je possède, à savoir l'étude du système de transport urbain. C'est pas, on ne peut pas étudier un mode de déplacement indépendamment des autres modes de déplacement en milieu urbain. On est obligé d'étudier l'ensemble des modes de déplacement. Comment ils se concurrencent sans cesse, comment l'un connaît un succès au détriment de l'autre, etc. Il y a ce jeu concurrentiel, il est fondamental. Pour le vélo, il commence avec le vélo qui égratigne le succès du cheval, puis ensuite le tramway, et puis ensuite le deux roues motorisées, la voiture, tout ça. En fait, le vélo est sans cesse en concurrence, gagnant ou perdant par rapport à d'autres modes de déplacement. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que le livre a un sous-titre un peu étrange, une histoire des déplacements urbains. Vous voyez, en fait, j'aborde presque tous les modes de déplacement. Donc, en même temps que vous apprenez des tas de choses sur le vélo, vous apprenez en fait le vélo dans le système de transport urbain. Je ne crois pas que mon livre soit brillant. Je pense qu'il a du contenu, en revanche. Parce que mon métier, ce n'est pas d'écrire. Vous voyez, je ne prétends pas du tout... Alors, évidemment, j'ai un peu soigné le style parce que ça s'impose quand même, le respect du lecteur. Mais ce que j'ai cherché à faire, c'est surtout nourrir les gens qui acceptent de lire ce livre. Vous apprendrez beaucoup de choses. J'ai compilé 400 références à peu près scientifiques dans toute l'Europe, hein, en je ne sais plus combien de langues, 6 ou 7 langues. Alors, je ne veux pas dire que je connaisse toutes ces langues. Non, je suis assez mauvais en langue. Mais enfin, j'ai fait l'effort d'essayer d'accéder à certains documents dans des langues barbares comme le danois ou le néerlandais, en mobilisant des gens qui m'ont aidé. Alors, c'est très peu de documents, mais c'est quand même des documents clés à chaque fois. Oui.
D'accord. Effectivement, une masse de connaissances. Oui.
Et en fait, évidemment, depuis qu'il est paru, j'ai encore appris des tas de trucs. Il y a une nouvelle édition à faire dans 10 ans. Peut-être qu'il y aura une nouvelle version. Elle pourrait être doublée sans problème, quoi. Mais l'éditeur m'a au contraire tiré vers m'a obligé, comme tous les éditeurs, il a fait très bien son boulot, et il m'a obligé à supprimer toutes les redondances.
Éditeur La Découverte, d'ailleurs, que j'ai oublié de citer. Important.
Oui, c'est vrai.
Je voulais te demander aussi, est-ce que tu veux bien nous lire un petit passage
qui te tient
à cœur, ou partager un petit peu
C'est pour ça que je disais ça avant, parce que c'est pas brillant, j'ai pas un style brillant, mais je suis pédagogue, parce que je suis enseignant-chercheur, et je suis obligé de mettre à la portée des étudiants, depuis quand même pas mal d'années, les réflexions du chercheur. Et ça m'oblige à être clair. Donc, disons que c'est un livre lisible, voilà. Mais est-ce qu'il est brillant? Donc j'ai deux passages possibles, je ne sais pas trop. Je vais lire celui-là qui me plaît bien. J'explique dans ce passage que le cycliste a un rapport particulier au temps et à l'espace. En fait, là, je compile 10 documents, quoi, dans une page. Et c'est souvent ça. Chaque page, c'est presque 5-10 documents à chaque fois.
Page 43.
Alors, page 43. Le cycliste fait corps avec sa machine, prolongement de son ossature, en mobilisant ses muscles les plus puissants pour avancer, tout en restant assis. Il éprouve constamment ses possibilités et ses limites physiologiques en fonction de la distance et du relief à affronter. Il dose sans cesse son effort pour maintenir une allure régulière et arriver dans les temps à destination. Si son temps de déplacement est parfois plus long que celui de l'automobiliste, il est en général moins aléatoire, car le cycliste échappe aux embouteillages et n'est perturbé que par les aléas météorologiques importants, vents forts, averses, verglas, heureusement rares. Aujourd'hui, à l'heure du triomphe des mondes virtuels, le cycliste est au contraire pleinement dans la réalité.
Voilà. Merci beaucoup. Bon, on va continuer à te poser un certain nombre de questions. Alors, au fur et à mesure de la lecture, j'ai découvert un auteur que je ne connaissais pas du tout et surtout ses idées qui m'ont beaucoup intéressée. C'est Ivan Illich. Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu comment tu l'as découvert déjà et ce qui t'a plu dans sa manière d'aborder les questions de vélo?
C'est un auteur qui a connu un succès mondial dans les années 70 en faisant la critique de la société industrielle.
D'accord.
Il faut comprendre qu'à cette époque, il y avait une effervescence incroyable après mai 68 et quantité de mouvements sociaux dans les années 60-70. Il y avait une effervescence, un esprit critique qu'on a complètement perdu, enfin largement perdu aujourd'hui. Quoique, peut-être qu'on voit quand même réapparaître avec la critique, justement, de la croissance, de choses comme ça, des choses réapparaître. Revenons à Illich. C'est un moine, un prêtre, en fait. Non, pardon, un prêtre, au départ. Assez vite, qui va renoncer à cette vocation, parce que, en fait, l'Église va lui mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Il est trop critique, quoi. Il est trop critique. Il va écrire plein de livres, dont l'un, alors j'abrège, dont l'un qui va sur les transports, qui s'appelle. D'ailleurs, bon, le nom m'échappe, mais c'est en 73, et où il va sortir entre autres raisonnements. Il va faire, disons, l'éloge du vélo et mettre en avant un raisonnement qui va subjuguer ses contemporains. Et qui s'avérera à l'époque juste, si on tient compte non seulement du temps de déplacement, mais aussi du temps de travail pour payer le mode de déplacement, vous avez compris ? Eh bien, l'automobiliste va moins vite que le cycliste. Et on appelle ça la vitesse généralisée, hein, si on tient compte, vous voyez, de tout le temps de travail nécessaire pour payer le déplacement. Alors, tout cycliste d'un certain âge, tout cycliste militant d'un certain âge connaît ce raisonnement. Et même et la nouvelle génération apprend vite à découvre vite ce raisonnement. Je m'y suis intéressé et j'ai découvert que j'étais le premier. Voilà, le premier à m'y intéresser vraiment, sauf avec une exception quand même. Un prof du secondaire qui donnait à ses élèves un exercice là-dessus, qui avait tout pigé, et que j'ai vu que bon, c'est un type étonnant. Bref, en étudiant la question, j'ai découvert que, ben, hélas, c'était faux. Alors, pas vraiment faux, pas complètement faux. Disons que les chiffres, les données dont disposait Illich et celui qui a fait les calculs, à savoir Jean-Pierre Dupuis, qui est encore aujourd'hui un éminent philosophe des sciences, critique de la société industrielle, un élève d'Illich, et que je vous recommande vivement, lisez Jean-Pierre Dupuis, ses ouvrages, c'est passionnant. Bon, alors Jean-Pierre Dupuis, il est quand même X-mine, hein, polytechnicien et mine. Mais bon, ses résultats... il est de toute bonne foi, c'est pas le problème, sauf que les données de l'époque n'étaient pas très bonnes et qu'en fait, avec le recul que l'on a aujourd'hui, on peut montrer que la voiture a rapidement, hein, la vitesse généralisée de la voiture a rapidement dépassé celle du vélo. Pourquoi ? Parce que le temps de travail nécessaire pour payer le déplacement s'est considérablement réduit grâce à la hausse du pouvoir d'achat. Des années 70-80, alors ça s'est réduit, certes. Là, c'est un peu tari, là, maintenant, mais oui. Donc, à cause de ça, ce n'est plus vrai. Bon, donc, douche froide, c'est pas rigolo de se dire que voilà un argument qui tombe. Mais si on retravaille, si on travaille un peu la question, alors il n'y a pas que le temps de travail nécessaire au déplacement. Il y a aussi le temps de maintien en forme. Quand vous êtes en voiture, eh ben, vous n'êtes pas en forme. Vous êtes sédentaire. Et c'est un problème de santé publique absolument grave. La sédentarité aujourd'hui est devenue un problème de santé publique tout à fait important. Et tous les médecins spécialiste de ces questions, je tire la sonnette d'alarme, hein, pour vous dire, en 200 ans, entre le début du 19e siècle et aujourd'hui, notre activité physique s'est réduite d'un facteur 10, divisé par 10. Okay. On bouge 10 fois moins qu'il y a 200 ans, à peu près une demi-heure par jour au lieu de 8 heures par jour. Quoi. Bon, comme on ne bouge plus, on a des tas de maladies chroniques qui explosent. Alors moi, je ne suis pas médecin, je n'arrive jamais à retenir toutes ces maladies, mais le diabète de type 2, certes l'obésité, mais il n'y a vraiment pas que ça, les maladies cardiovasculaires, les problèmes coronariens, etc. Enfin, les dépressions également, enfin, il y en a énormément. Il y a une dizaine de maladies chroniques qui sont favorisées par la sédentarité. Et donc, si vous tenez compte, non seulement du temps de déplacement, mais aussi du temps nécessaire pour payer le mode de déplacement, et aussi du temps nécessaire pour se bouger, parce qu'en voiture, on ne bouge plus, eh bien, bingo. Alors la vitesse, alors il faut l'appeler autrement, hein, c'est la vitesse non plus généralisée, mais moi j'appelle ça la vitesse globale du cycliste, devient supérieure à celle de l'automobiliste. Donc, vous voyez, je ne sacralise pas Illich, mais j'utilise néanmoins son travail pour aller plus loin. C'est ça qu'il faut faire. Il faut arrêter de citer Illich religieusement comme si il y a 40 ans, il avait tout dit. Mais non.
En tout cas, c'est une bonne base pour mener plus loin encore les réflexions, voilà. Et vraiment envisager le vélo. Alors,
je vous encourage vivement à lire Illich.
Je voulais juste dire... Donc,
Énergie et équité, voilà le nom du livre de 73.
Et on le trouve sur Internet.
Oui, en accès libre.
Le livre en entier. Donc, justement, alors pour revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, ton approche à la fois historique et surtout systémique, c'est-à-dire le système de transport, j'aurais bien aimé qu'on aborde le concept d'écomobilité qui me semble être vraiment au centre du concept de vélo finalement.
Oui, parce que c'est une belle illustration de cette approche. Finalement, l'écomobilité, c'est l'association entre le transport public. Plutôt, je vais commencer par la marche, le vélo, le transport public. C'est dans cet ordre qu'il faut dire les choses.
On hiérarchise quand même les déplacements, les modes de déplacement.
Oui. En fait, parce que je vous rappelle que nous sommes tous d'abord piétons, et en fait, tous les autres modes de déplacement ne sont que des prothèses du piéton. Et vu comme ça, évidemment, ça change les choses. Ça veut dire qu'il faut d'abord construire une ville pour le piéton, et puis quand les distances sont un peu trop grandes, eh bien... mobiliser d'autres moyens de transport. C'est ça qu'il faudrait faire. Bon, évidemment, on a fait l'inverse ces dernières décennies, et ça pose problème. Bref, le système de transport écologique, moi je préfère appeler ça comme ça que écomobilité, mais c'est la même chose, hein, l'écomobilité ou le système de transport écologique, c'est l'association marche-vélo-transport public. Et c'est ce système-là qui, seul, est capable réellement de contrer le système automobile. Sinon, il n'y a pas grand-chance pour y parvenir. Et en plus, disons, même cette solution ne suffit pas vraiment parce que le système automobile, il est tellement écrasant encore aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. Hein, je suis sorti du centre-ville aujourd'hui dans Bordeaux. Je suis allé jusqu'au...
Au bassin flot,
et là-bas, il n'y a plus de vélos du tout, ou très très peu, il y a un océan de voitures, c'est aussi ça à Bordeaux, mais c'est partout pareil, hein, je ne vous fais aucun reproche, c'est partout pareil, mais dès qu'on quitte hélas les centres-villes, la voiture est absolument reine. C'est pour ça que le titre de mon livre est un peu optimiste, on va dire, « Le retour de la bicyclette ». En France, c'est encore limité au centre-ville et au centre des grandes villes. En périphérie des grandes villes, on a encore une baisse aujourd'hui ou une stagnation. Et dans les petites villes, ça dépend. Il y a certaines petites villes où il y a un retour du vélo déjà, comme Colmar ou bien La Rochelle. Mais il y a d'autres villes où, hélas, les choses s'aggravent encore.
Justement, je voulais te demander, puisqu'on aborde vraiment la France cette fois-ci, hein, par ses villes cyclables ou justement non cyclables, est-ce que tu pourrais nous situer finalement la France en matière de vélo par rapport à ses voisins européens ?
Bon, alors je ne veux pas avoir... C'est pas un scoop.
À part pour le Tour de France, bien sûr.
C'est pas là, un scoop, on n'est pas bon. Voilà. On n'est pas très bon, mais on n'est pas non plus très mauvais. Les plus mauvais, ce sont ceux qui sont arrivés le plus tardivement à la voiture. C'est-à-dire, puisqu'en fait, il y a un phénomène de génération très puissant dans les modes de déplacement. Quand on est arrivé tardivement à la voiture, on a du mal à se remettre au vélo assez vite, quoi. Parce que la voiture, c'est très dur de l'acquérir, de tout adapter les villes à la voiture, etc. D'adapter son mode de vie à la voiture, c'est long, compliqué, coûteux. Quand on y est parvenu... Si quelqu'un vous dit « Ah bah, bon, vous y êtes parvenu, mais désolé, maintenant, ce n'est plus à la mode, il faut faire attention à l'environnement et au réchauffement climatique et il faut se remettre au vélo », les gens vous disent « Mais attendez, c'est quoi cette histoire ?» Pour eux, la voiture est une conquête. Donc, c'est le cas, par exemple, de l'Espagne, qui, à cause du franquisme, ou grâce au franquisme, finalement, a acquis peu de voitures avant 1975. Et puisqu'il s'est jeté sur la voiture et a acquis des voitures à toute vitesse dans les années 80-90, et pour eux, c'est encore trop frais, quoi, cette conquête de la voiture. C'est difficile pour eux de se remettre au vélo. À part quelques rares villes, enfin un peu le Pays Basque, Valence, enfin il y a des endroits...
Séville, par exemple.
Séville, oui, il y a des endroits où ça reprend, où ça commence à reprendre un peu. Mais ils sont loin du compte. Donc nous, on est un petit peu meilleur que l'Espagne. On est moins bon que l'Italie. Pour la raison suivante, c'est que l'Italie est un pays très anciennement urbanisé. Très anciennement urbanisé. Puisque les villes en Italie du Nord, vous aviez déjà, du temps de la Renaissance, des villes magnifiques. Quand la voiture... a envahi les villes italiennes à toute vitesse hein, dans les années 50-60, ben, ils ont été horrifiés. C'était toute l'urbanité de leurs villes anciennes, de leurs villes historiques, qui était menacée. Et menacée, alors, de deux façons au moins. Première façon, l'envahissement spatial. Il faut comprendre que la voiture, partout en Italie, mais aussi en France dans toute l'Europe et au-delà, mais je me contenterai de parler de l'Europe aujourd'hui, la voiture a envahi absolument tous les espaces. Il y avait aucun encadrement de la voiture. Donc la moindre place, c'était les automobilistes s'y installaient, le moindre bout de trottoir, ils s'y installaient. Puis vous n'avez qu'à aller en périphérie urbaine. C'est encore largement le cas. Là, j'ai vu des choses là, du côté de... Ben bon, Bordeaux, comme partout, hein, même les villes les plus vertueuses, comme, je sais pas, une ville comme Strasbourg, qui a une certaine réputation.
Première ville cyclable de France,
quand même. Oui, en grande périphérie. Je le connais très bien, hein, Strasbourg, j'y ai vécu très longtemps. J'ai encore de la famille qui vit en grande périphérie. Et là, je vois très bien comment ça se passe. C'est l'envahissement complet. Bon. Donc, c'est le premier problème de la voiture. Puis, deuxième problème, c'est la pollution qui mange littéralement les bâtiments historiques, qui noircit les bâtiments jusqu'à les dégrader vraiment profondément. Donc, les Italiens ont réagi à cela. Et la première ville qui a réagi, c'est Ferrare. Ferrare, en 69. Ils ont dit stop, on ne veut plus de voiture dans le centre. Vous avez bien entendu. Fermeture du centre aux voitures. Terminé. Ils n'ont pas fait ça avec progressivement. Évidemment, ils ont quand même autorisé les ayants droit. Les ayants droit, c'est 20% du trafic d'avant. Une voiture sur cinq, si vous voulez. A pu continuer à traverser le centre, mais uniquement les résidents. Les livreurs, les services d'urgence, vous voyez, donc finalement, peu de choses. Et ils ont fait respecter ça. Et devant le succès qu'a eu l'initiative de Ferrare, plein de villes italiennes se sont engouffrées dans la brèche. et ont décidé de faire pareil. En 89, il y avait déjà 50 villes qui avaient une ZTL, ils appellent ça comme ça, zone à trafic limité. 50 villes. Et ils ont décidé de légaliser, parce que jusqu'à présent c'était expérimental, ils ont légalisé une loi à créer, la ZTL, en Italie en 89. Et aujourd'hui, vous avez des centaines de villes qui ont leur centre historique, et souvent un peu au-delà, leur centre historique, c'est-à-dire y compris le centre... ça peut être y compris les bâtiments du 19e siècle, voire du début 20e. Hein, tout c'est un grand centre. Bologne, c'est énorme. La ZTL de Bologne est énorme, par exemple. C'est tout simplement interdit. À Bordeaux, vous avez presque l'équivalent, après tout. Hein, puisque le centre historique de Bordeaux est de fait interdit par un système de plots, m'a-t-on expliqué, aux voitures. Bordeaux est l'une des rares villes, finalement, en France, qui a une zone aussi étendue, qui c'est quasiment l'équivalent d'une ZTL. Nantes a créé, effectivement, une vraie ZTL en 2012, septembre 2012. Et elle connaît un succès, mais foudroyant. C'est-à-dire qu'en un an, quadruplement des cyclistes traversant l'hypercentre. Oui, parce que je ne l'ai donc pas dit, mais quand vous modérez la circulation automobile, quel est le mode de transport qui en profite le plus ? Et toujours, toujours dans tous les cas, c'est le vélo. Et sans aménagement cyclable. Autrement dit, vous voyez, c'est une leçon de l'histoire qui est vraiment fondamentale à mes yeux. C'est même écrit dans le résumé de la quatrième page, là, la quatrième de couverture. J'ai tenu à mettre cette idée parce qu'elle est absolument clé dans mon livre. La modération de la circulation est le principal levier pour relancer la pratique du vélo. Et non pas les aménagements cyclables, comme on entend toujours. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire.
C'est une méthode.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Mais c'est un complément utile. Et parfois nécessaire, mais un complément. Et c'est les villes italiennes, par exemple Ferrare, a donc gardé, enfin, a connu une baisse forte du nombre de cyclistes, comme toutes les villes en fait. Et puis ils ont réussi à relancer la pratique du vélo en supprimant le trafic automobile dans le centre. Oui, je ne vous ai pas tout dit sur Ferrare, mais c'est une ville entourée de remparts qui existe encore. Donc c'était facile, vous voyez, de créer une ZTL. Tout ce qui est à l'intérieur des remparts, pas de voiture. Imaginez qu'on fasse ça, je ne sais pas, pour Saint-Malo, par exemple. Ou bien...
Avignon.
Ou Avignon, oui, etc. Oui,
c'est situé, je vous parle de cette ville, mais c'est situé sur un coteau.
Ah non, pas du tout. Alors on est, c'est la plaine du Pô, on est vraiment, c'est raplapla, c'est vraiment absolument plat.
C'est vrai que c'est un exemple intéressant pour y avoir été. C'est assez fascinant. Et puis les Italiens sont extrêmement chics avec leur fourrure le matin en allant au travail. Il fait rare. C'est vraiment une ville à visiter, une ville cyclable en tout cas. Justement, alors, puisqu'on parlait de différents pays du vélo, finalement, est-ce qu'on peut dire que le vélo, ce serait culturel ?
Alors, je termine le cas de Ferrare. Je vais répondre à ta question. Pour le cas de Ferrare, Ferrare, donc, au début, n'a absolument rien fait pour les cyclistes. Et puis, assez vite, ils se sont dit, bon, ce serait quand même bien de faciliter l'accès à la vieille ville en faisant des aménagements cyclables. Mais c'est dans un second temps. Et partout, en fait, en Italie, ils ont fait ce raisonnement. Et ils ont, dans certaines villes, donc Ferrare, 27% de part modale vélo. Sur l'agglo, attention, hein. C'est énorme. C'est-à-dire c'est autant par modal. Oui, expliquons un petit peu, pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude. On connaît, en faisant des enquêtes approfondies, qui ont toujours comme périmètre l'agglomération et pas seulement le centre, hein. En faisant des enquêtes approfondies, on peut regarder, on demande aux gens tout simplement dans une journée comment ils se sont déplacés. Puis ensuite on fait des statistiques et on constate que par exemple les gens se déplacent en moyenne 3 à 4 fois par jour, à peu près partout, dans le monde même, 3 à 4 fois par jour. Et comment se répartit ces 3 à 4 déplacements ? Ben, on constate que, voilà, par exemple, la moitié des déplacements sont en voiture, 20% en transport public, 20% à pied, et puis 10% à vélo, par exemple. Oui. Donc, à Ferrare, quand on fait ces enquêtes, on s'aperçoit que 27% des déplacements se font à vélo, soit autant qu'aux Pays-Bas, quoi, dans pas mal de villes des Pays-Bas.
C'est le rêve.
Vous voyez que l'Italie, alors je réponds maintenant à ta question, pays latin, est-ce que les latins ne roulent pas à vélo? Est-ce que les teutons ou les bataves, eux, auraient ça dans le sang et auraient toujours roulé à vélo? Je vous propose, avec ton accord, de vous parler des Pays-Bas pendant un petit moment. Parce que c'est un lieu commun en France. Les Néerlandais ont toujours roulé à vélo, rouleraient toujours à vélo. Enfin, ouais, ce serait culturel, point. Hein, pourquoi ils roulent à vélo? C'est culturel. Puis après, on rajoute, puis c'est plat. C'est plat, voilà. Puis on a tout dit. Déjà, on va déjà tordre le cou à l'idée que c'est plat. Alors, je conteste pas que ce soit plat, mais c'est venteux. C'est venteux, les Pays-Bas. Et ici, vous avez pas mal de vent, je pense, en bordure de mer. Là. Enfin, la mer n'étant pas très loin, à Bordeaux, il y en a peut-être un peu plus quand même. À Dunkerque, il y en a déjà beaucoup plus. Dans les Pays-Bas, vraiment, il y a du vent. Quand vous avez un vent de face, c'est comme si vous grimpiez une côte. Et en plus, ils ont la mauvaise idée d'être droit comme un i sur leur vélo pour avoir le maximum de prise au vent. Enfin, ils n'ont rien compris, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Hein. Donc, comment se fait-il qu'ils fassent quand même du vélo alors que de temps en temps, ils doivent affronter un vent d'ouest?
Ils ont un truc.
Eh bien, il faut. Alors, vous voyez, là, pour comprendre ça, c'est l'exemple type où seul un recul historique suffisant permet de le comprendre. Alors, on va repartir du début. Le début, c'est. Dans toute l'Europe, le vélo connaît un succès énorme. J'ai bien dit dans toute l'Europe. En fait, l'Europe qui a quand même un certain pouvoir d'achat, donc l'Europe riche, l'Europe plutôt occidentale. Le vélo, quand il est au point, c'est-à-dire, hein, pour fixer les idées, en 1891, le vélo moderne est au point. Pourquoi 1891? Parce que c'est la dernière grande innovation qui va rendre le vélo vraiment pratique. C'est le pneu gonflable et facilement démontable. Parce que le pneu gonflable a été inventé par Dunlop en 1889, mais encore amélioré par Michelin 2 ans plus tard. Et avec les pneus Michelin, on a vraiment un truc super. Il manque encore une chose, c'est le changement de vitesse, qui n'est pas au point. Il y a des essais, etc. Il faut encore attendre 10 ans pour qu'il y ait des changements de vitesse. Enfin, déjà, avec un vélo sans changement de vitesse, on est déjà... Bon. Avec le pneu... Le vélo devient vraiment confortable. On avale beaucoup d'obstacles. Pas tous, vous allez voir, mais vraiment beaucoup. Donc vous voyez, dans mon livre, il y a quand même l'essentiel des grandes innovations. Parce qu'on a besoin de repères, vous voyez, là-dessus. Mais ce n'est pas du tout un livre sur l'histoire des innovations dans le domaine du vélo. Parce qu'il y en a déjà plein, des livres comme ça. Et pour une fois, ce n'est pas un livre qui Et donc je renvoie évidemment à ces livres, si vous voulez, si vous êtes fan de technique, il y a tout ce que vous voulez. Hein. Donc moi, j'aime bien la technique, mais vraiment sans plus. Donc vous avez juste un résumé des principales innovations. C'est fascinant, hein, c'est un monde fascinant. Il a fallu des centaines de brevets pour mettre au point le vélo. Hein. Donc vous voyez, c'est un vrai sujet, hein. Des centaines de brevets. C'était en 1891 un objet high-tech, il faut se rendre compte que c'était vraiment un truc très au point. L'équivalent d'aujourd'hui, c'est la voiture, bien sûr. Mais oui, c'était un objet technique très au point. Bon. Donc il connaît un succès foudroyant dans le monde entier, enfin dans les pays suffisamment riches, où les gens sont suffisamment riches pour pouvoir l'acheter, car il est encore assez coûteux. Il n'est pas encore produit en masse. Donc il est encore assez coûteux. Mais on voit qu'on commence dès les années 1890, on commence à voir des ouvriers, disons les plus qualifiés, les mieux payés, commencent à être capables de se payer un vélo. Tenez-vous bien, le pays qui va se jeter sur le vélo, ce n'est pas les Pays-Bas, pas la France, Les États-Unis.
Tiens.
Ah, ça alors, qu'est-ce qui... Les États-Unis, c'est incroyable. Eh bien oui, en une décennie, ils vont acheter 10 millions de vélos. Il y a, à la fin du 19e siècle, il y a 10 millions de vélos qui circulent aux États-Unis, alors qu'il y a 72 millions d'habitants à l'époque aux États-Unis. Et c'est le meilleur taux de pénétration de la bicyclette dans le monde à l'époque. Bon, ils vont se jeter aussi sur la voiture très vite, hein, dès les années 10, avec la Ford T, etc. Enfin, ça, c'est mieux connu. Et ils vont très vite abandonner le vélo. Mais n'empêche que c'était un pays très, très cycliste, fin 19e siècle. Les Pays-Bas, il n'y avait pas plus de vélos aux Pays-Bas qu'en France, qu'en Allemagne. Donc, ils se sont mis au vélo, mais enfin, pas plus qu'ailleurs. Bon. Plein de choses vont expliquer que le vélo va se muscler aux Pays-Bas. D'abord, fin 19e siècle, on est en plein pan-germanisme. Quel rapport avec les Pays-Bas ? Le pan-germanisme, c'est le fait, c'est suite à l'unification allemande, l'Allemagne est en train de grignoter des territoires en toute l'Europe. Ils considèrent que chaque fois qu'on parle soit l'allemand, soit une langue proche de l'allemand, ben, il faut annexer ces territoires, d'où l'Alsace-Lorraine, hein, qui nous ont piqué. Et puis les Pays-Bas ont peur de se faire avaler par la grande Allemagne qui vient de naître. Donc, ils sont très inquiets et ils vont voir dans le vélo une manière de redécouvrir leur pays et les valeurs de l'âge d'or. L'âge d'or, c'est l'époque où les Pays-Bas dominent la planète, c'est le XVIIe siècle. L'époque de Rembrandt, par exemple, ou de la Compagnie des Indes orientales qui commerce avec le Levant. Toute l'Indonésie est aux mains des Néerlandais, etc. Enfin, c'est un pays richissime à l'époque, le plus riche d'Europe, et voilà. Avec, ils ont la nostalgie de ce passé glorieux, et ils voient dans le vélo une façon de retrouver les valeurs de force, de courage, d'équilibre de cette époque-là, contre le voisin allemand. Redécouvrir le pays, les valeurs néerlandaises, contre le voisin allemand. Et l'Allemagne va voir le vélo très différemment. L'Allemagne, c'est comme en France, ils vont voir dans le vélo un moyen d'accéder à la vitesse, d'aller bien plus vite que le cheval, par exemple, d'aller plus loin. Bon, c'est la vitesse. Et c'est pour ça que le Tour de France est né en France, vous voyez, pas aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, au même moment, les courses cyclistes sont interdites. Vous vous rendez compte ? Ils vont jusqu'à interdire les courses cyclistes pour faire du vélo un moyen de tourisme et rien d'autre, et de déplacement utilitaire bientôt. Bon, je vais aller très vite. Pendant la guerre de 14-18, c'est l'un des rares pays neutres, comme la Suisse. Et il se retrouve coincé entre les belligérants, avec d'un côté l'Angleterre, bon, la France, qui font un blocus de la mer du Nord pour éviter que l'Allemagne ne se ravitaille en matière première. Sauf qu'au milieu de tout ça, il y a les Pays-Bas qui se retrouvent sans vélo. Ils n'avaient pas d'industrie locale, donc ils ne peuvent plus importer de vélos, d'Allemagne en particulier. Beaucoup de vélos étaient produits en Allemagne. Ils ne peuvent plus se déplacer en voiture parce qu'il n'y a plus de pétrole. Alors ils se disent, on va instaurer notre propre industrie du vélo, et puis on va aménager des pistes cyclables dans tout le pays pendant que les autres s'amusent à se bagarrer et à s'entretuer. Vous voyez, donc ça, où est la culture là-dedans ? Je ne sais pas, oui, c'est le hasard de l'histoire. Il y a des hasards dans l'histoire, ça existe. 1924, autre hasard de l'histoire, il y a des soubresauts, l'Allemagne est en quasi banqueroute, parce qu'il y a une hyperinflation en Allemagne, mais il y a des retentissements un peu dans toute l'Europe, et des difficultés budgétaires aux Pays-Bas, et ils décident de réinstaurer, parce qu'ils en avaient déjà une, mais ils l'avaient supprimée, une PAC sur les vidéocipèdes. Fureur de l'association locale qui dit « c'est scandaleux, on y comprend ». Et ils réussissent à négocier la chose suivante. Ils sont les seuls à avoir réussi à négocier en Europe. Ça n'a pas été possible en France ni en Allemagne. D'accord pour cette taxe, mais il faut qu'elle finance les aménagements cyclables. Il se trouve que le gouvernement va être d'accord. Pourquoi ? Parce que si on fait les aménagements cyclables, ça libère les routes de cet élément extrêmement gênant qu'est le cycliste. C'est une citation de je ne sais plus quoi, de je ne sais plus qui. Bon, bref, les automobilistes, eux, ils voulaient que les cyclistes dégagent de la chaussée. Donc, ils voulaient des pistes cyclables. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, c'est toujours la même chose. Hein. Mais oui, qu'on construise des aménagements cyclables pour les cyclistes. Comme ça, on pourra faire vrombir notre moteur sur la chaussée, libérer les cyclistes. Bien. Mais ce compromis, il a été réussi aux Pays-Bas. Parce qu'il se trouve qu'à la tête de la NVB, il y avait des gens assez proches du pouvoir. Enfin, vous voyez, c'est tout un contexte politico-social qui explique ça. Je saute des étapes. Quand même, pendant la guerre, donc, l'industrie locale du cycle se crée. Il y a un véritable cartel de fabricants qui va s'instaurer, qui va mettre des taxes aux frontières pour les vélos importés, et puis qui va créer le fameux vélo hollandais, qu'on connaît tous, là, le noir, la col de cygne, etc. Bon. Puis ça va devenir, vous voyez, un élément de distinction par rapport aux autres pays, ce vélo hollandais. La famille royale, allez, la famille royale, hein, il se trouve que la reine Wilhelmine est fan de vélo. Elle aurait pu... c'était pas une exception à l'époque, toute la... Par exemple, le prince Louis-Napoléon, le fils de Napoléon III, était fan de vélo, absolument fan de vélo. Il circulait à vélo dans les Tuileries, le long des contre-allées des Champs-Élysées. Voilà. Bon. Donc la reine Wilhelmine, elle a 18 ans en 1898, elle devient reine à ce moment-là. Quelques mois auparavant, elle visite Paris et elle fait toute la visite à vélo. Et on l'appelle la petite reine. Alors, l'expression n'est pas née avec elle, mais on va lui appliquer cela. Et en fait, les souverains néerlandais vont très vite découvrir que le fait de se montrer à vélo, ça fait peuple. Et c'est une façon, finalement, de se montrer proche du peuple, alors qu'ils sont richissimes. Hein, c'est l'une des familles royales les plus riches au monde. Ils ont toutes les Bentley, les chauffeurs qu'ils veulent, hein, c'est aucun problème. Mais de temps en temps, se montrer à vélo, vous voyez, ça fait proche du peuple. Et voilà encore un trait distinctif, vous voyez, mais ça, il se trouve que ça a pris ce truc aux Pays-Bas, ça aurait pu prendre ailleurs, hein, mais il se trouve qu'en France, voilà, on n'a pas eu de président de la République qui se soit amusé à circuler à vélo. Bon, puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Oui, ils n'avaient pas d'industrie automobile, les Néerlandais. Ils n'en ont eu que tardivement. Ils ont commencé à fabriquer des voitures seulement en 1958. Donc ils ont pris du retard dans l'accès à la motorisation. Mais une fois qu'ils se sont jetés sur les voitures, ils sont allés aussi vite que partout ailleurs. Ils ont... Dans les années 60, la croissance de la motorisation était effrénée. Hein, effrénée. Nous, on l'a juste fait 5 à 10 ans avant eux. Et donc, ils l'ont fait avec un peu de retard. Ce qui veut dire que la pratique du vélo s'est effondrée, il n'y a pas d'autre mot, effondrée dans tous les pays d'Europe, y compris aux Pays-Bas, au Danemark, mais, et c'est ça qui est très important, mais avec... Un temps de retard non négligeable. 5 ans, disons, sur la France et sur l'Allemagne, à peu près. L'Allemagne a eu un petit temps de retard sur la France au début, parce qu'ils avaient été tellement détruits que, bon, ils ont eu un peu de retard au début, mais ils ont très vite rattrapé leur retard et ils ont dépassé ensuite les Français. Les Néerlandais, ils ont essayé de nous rattraper, ils n'ont pas réussi. Car, qu'est-ce qui est arrivé ? Ben, la crise de 1974. la crise de l'énergie, quadruplement des prix du pétrole fin 73, suite à la guerre du Kippour, l'OPEP se crée, etc. Enfin, et sanctionne les pays un peu trop proches d'Israël. Et là encore, bingo, les Pays-Bas étaient très, très pro-israéliens. Et ils se sont fait, du jour au lendemain, on leur a dit, ben, vous n'aurez plus de pétrole, parce que vous êtes trop, vous soutenez trop les pays, Israël. Alors que la France avait une politique plus, plus équilibrée, et donc a continué à avoir du pétrole. Aux Pays-Bas, on a donc instauré des dimanches sans voiture. Mais c'était urgent, il fallait essayer d'économiser le pétrole. Et retour de la bicyclette, à fond la caisse, tous les Néerlandais se sont remis au vélo, bien obligés de le faire. Alors qu'ils avaient encore pas mal de vélos. Vous voyez, il y avait une chute brutale, mais ils n'étaient pas encore, tombés au fond du trou, quoi. Mais ils l'auraient été autant que nous si la crise de 73 avait eu lieu en 83, quoi. Bon, et puis, etc. Enfin, vous voyez, on peut continuer. Alors, qu'est-ce qui est culturel là-dedans? Qu'est-ce qui est culturel? Il y a des aspects culturels. C'est-à-dire qu'il y a le fait est que ce pays a découvert, en fait, assez récemment, il y a seulement à peu près 4-5 ans seulement, ils ont découvert, hein, en fait, il y a eu un congrès Vélocity, cette espèce de congrès mondial en...
2000.
Oui, non, attends. En 2000 aux Pays-Bas, mais surtout en 2010 à Copenhague. Et à Copenhague, ils ont créé la Cycling Embassy. Donc, on pourrait traduire littéralement une ambassade, disons, de tous les bureaux d'études et ministères, enfin tous ceux qui défendent le vélo
les acteurs.
Oui, au Danemark, se sont coalisés dans une structure pour vendre le savoir-faire danois à l'étranger. C'est donc pas les Néerlandais qui ont fait ça, c'est les Danois qui ont fait ça en premier. Alors là, ils ont été vexés, là ils sont dit mais c'est nous qui avons le plus de cyclistes. Donc ils se sont rendus compte qu'ils avaient plein de cyclistes et que c'était eux. Donc, vous voyez, il n'était donc pas conscient d'être particulier sur ce plan-là. Et j'ai, en 2005, un autre exemple de cela, en 2005, ils ont sorti 4 ouvrages sur la culture néerlandaise. Vous voyez, une espèce de somme énorme, qui fait à peu près plus de 2000 pages, en 4 volumes de 500-600 pages. La culture néerlandaise, avec en gros un volume par siècle depuis le 17e, 18e, 19e, 20e. Il y a 4 volumes. Et ben, le vélo, inconnu au bataillon. Il ne parle pas de vélo. Nous, pour nous, Pays-Bas, pays du vélo, on enclenche tout de suite là-dessus, nous. Tous les Français pensent cela. Pas eux. En 2005, je vous dis... 2200 pages, je ne sais plus, publiées sur la culture néerlandaise. Pas un mot sur le vélo. En fait, si, en cherchant bien, on trouve 2-3 broutilles. Mais c'est infime.
Vous avez compris, ce livre est passionnant. Il y a énormément d'informations et des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et c'est ça aussi très intéressant.
Oui.
Tu vas vraiment à l'encontre des idées reçues sur le vélo. Il y en a énormément, idées reçues. Que peut-être tu peux nous dire pour toi quelle serait la ville cyclable de tes rêves ou tes rêves de vélo, ou peut-être comment tu te vois en 2050 ou, enfin,
alors,
par rapport
au vélo, toutes ces choses-là. Je vais vous parler d'avenir. Le vélo dans l'avenir. Alors d'abord, vous avez compris, pas de vélo sans système de transport écologique et sans le pendant, c'est-à-dire la modération de la circulation automobile. On ne relancera pas le vélo sans modérer la circulation automobile. Ça, c'est fondamental. Modérer la circulation automobile, ça veut dire réduire d'abord la vitesse de la voiture. Bon, en fait, on le fait déjà, on n'arrête pas de le faire. On a passé la vitesse de 60 à 50 à l'heure en ville, on multiplie les zones 30. Bon, c'est rentré, ça fait déjà, quoi. Ça fait déjà quand même en France, depuis les limitations de vitesse sur route qui datent de 73, ça fait depuis 73 qu'on, qu'on, qu'on limite la vitesse, en ville depuis au moins 90. Vous voyez, c'est un mouvement qui est enclenché et qui ne s'arrêtera pas. Ne s'arrêtera pas. Donc, malgré les vicissitudes, parce qu'il y a certains maires qui, actuellement, qui remettent du stationnement sur les grandes places, des choses comme ça, mais ça, ce sont des épiphénomènes pour moi. Hein. Quand on prend du recul, on voit bien que c'est epsilon, cette histoire. Non, là, la tendance lourde est à la modération de la circulation. Il se trouve que nous, on a un peu raté le coche. Les pays qui ont d'abord fait ça, c'est les Pays-Bas, dès les années 70. Pourquoi ? Parce que c'est le pays le plus urbanisé d'Europe. Hein ? Donc, ils se sont mis à modérer la circulation automobile pour sauver l'urbanité de leur ville.
Mais c'était par contrainte, comme, tout simplement.
Comme les Italiens. Et en sauvant, en modérant la circulation automobile, ils ont constaté, comme partout ailleurs, que ceux qui en ont le plus profité, ce sont les cyclistes. Et puis là, après, ils ont rajouté quand même pas mal d'aménagements cyclables, c'est vrai. Donc je reviens à l'avenir. Bon, la modération de la circulation, elle est en route partout. Nous, on a un peu de retard sur des pays comme les Pays-Bas qui l'ont fait dans les années 70, comme l'Allemagne qui a commencé dès les années 80. Nous, on a commencé seulement dans les années 90 et lentement. Alors ça s'accélère dans les années 2000. Et ça continue de s'accélérer. Par exemple, on apprend que Paris, intramuros, Hidalgo, elle a pigé que bon, il faut généraliser les zones 30 à tout Paris, et puis que ce soit clair, dans tout Paris, on roulera à 30 à l'heure, sauf peut-être sur quelques grands axes qui resteront à 50, mais c'est tout. Et c'est quand les zones 30 sont généralisées qu'elles deviennent compréhensibles. Parce qu'il n'y a pas de raison que tel quartier soit en zone 30, puis pas tel autre à côté, vous voyez. Donc, c'est quand on généralise les zones 30 et les zones apaisées plus largement, c'est-à-dire les zones de rencontre, les zones, les aires piétonnes, quand on généralise tout ça, y compris la périphérie, c'est à ce moment-là que ça devient cohérent. Et là, ben, ceux qui en profitent le plus, ce sont les cyclistes. Certes, pas les gamins de 10 ans, c'est sûr, plus difficilement, mais ceux qui sont presque prêts à se remettre au vélo, puis qui ont un peu peur. La modération de la circulation. Donc, modération d'abord de la vitesse, mais aussi du trafic, parce qu'une vraie zone 30, on ne la traverse plus en voiture. On peut rentrer par le sud et on ressort par le sud, ou éventuellement par l'est ou l'ouest, mais on ne ressort pas par le nord. On rentre, il y a des boucles qui desservent les zones 30. Quand on fait cela, ben, on réduit beaucoup le trafic, on calme la ville. Et encore une fois, ceux qui en profitent le plus, ce sont les cyclistes. Quand même, ça ne suffira pas, ça, pour relancer fortement le vélo. Il va falloir faire en sorte que le système vélo soit plus performant. Alors, je m'explique. Le système automobile, vous voyez bien à peu près ce que ça représente. On circule. Enfin, il ne faut pas que des voitures pour circuler en voiture. Il faut aussi, évidemment, un réseau routier à la hauteur. Et puis, évidemment, des services à la hauteur. Des services de réparation des véhicules, des services d'assurance, des services de tout ce qu'on veut. Bon, pour le vélo, c'est la même chose. Il faut il faut des vélos performants, mais aussi un bon réseau, mais aussi des ateliers de réparation, etc. Or, l'état du système vélo aujourd'hui, il n'est pas brillant. En France, on en est aux années 30. Vous voyez ? À l'équivalent de ce qu'était le système automobile dans les années 30, c'est ça que je veux dire. Donc il y a énormément de retard. Si on veut mettre au point un système vélo performant, alors il va falloir mettre au point des vélos beaucoup plus performants. Et ils commencent à apparaître. Alors c'est les VAE, vélo assistance électrique, mais aussi les vélos couchés, je ne sais pas si certains connaissent ici, et les vélos mobiles. Alors ça, c'est déjà moins connu. Les vélos mobiles, c'est des tricycles carénés, vous voyez, avec une coque en résine. Et un vélo mobile, c'est une petite bombe. Enfin, dire, avec la même dépense d'énergie, on va à 35-40 à l'heure, sans s'en rendre compte. Enfin, c'est incroyable, quoi. Donc des vélos plus performants, un réseau plus performant, avec, pour faire simple, des super pistes cyclables et le traitement des coupures. Je sais que la rocade de Bordeaux, j'avais vu il y a quelques années, J'espère que ça s'est amélioré, mais ce n'était pas brillant, le franchissement de la rocade. Il y avait pas mal de problèmes. J'espère que ça s'est un peu amélioré. Voilà, c'est tous ces franchissements-là délicats qu'il faut traiter un à un. Et enfin, des services. J'arrête. Enfin, des services. Des services, et c'est les fameux ateliers d'autoréparation. Des vélos là, qui fleurissent partout, qui montrent qu'il y a un besoin énorme dans ce domaine.
Donc en tout cas, un futur où il y aura du vélo.
Oui. Et oui, alors le potentiel, il est énorme. Il est énorme. Donc j'essaie de le chiffrer, mais c'est disons 20 à 40% un peu partout. Quoi. En France, sans problème.
On vous le dit, vous ferez encore du vélo très longtemps.
De par modal.